Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sur les marchés financiers, il ne faut pas chercher le gendarme à Saint-Tropez, mais plutôt sur Internet, où il a fort affaire, voire du côté de Dubaï ou de Malte, où se reposent quelques-unes des nouvelles stars du conseil en investissement. Aux gendarmes d'ailleurs de rappeler que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, un gendarme de la bourse qui se cherche d'ailleurs une nouvelle tête, mais pour quoi faire ? Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des Échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, sociale ou financière. Aujourd'hui, on va s'interroger sur l'avenir de l'autorité des marchés financiers.
Dis donc, Jomy, qu'est-ce que tu es en train de faire là ?
Je compte mes économies.
Ça te ferait plaisir d'en avoir un peu plus ?
Ah oui, tu fais comment ?
Je sais, j'ai une idée, on va aller jouer ça en bourse.
Oh non, pas étonnant !
Fais-moi confiance ! Non, à la bourse !
Il y a quelques années, Jamy et Fred, de C'est pas sorcier, avaient fait preuve presque de salubrité publique en expliquant le fonctionnement des marchés financiers, le parcours d'une action ou d'une obligation. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de Nestor, la tirelire cochon de Jamy, et j'ignore aussi s'ils sont parvenus à faire fructifier leur capital. La bourse, c'est en effet une question de momentum, savoir quand acheter et quand vendre, et se tromper parfois, voire souvent.
Je prends, William, un je prends inhabituel, puisque c'est la première fois et la dernière fois que je fais cette intervention appuyée sur la corbeille. C'était un lieu réservé aux professionnels, aux agents de change.
Plus rien ne se passe au célèbre Palais Brongniart à Paris, place de la Bourse. Les actions se sont dématérialisées et les traders ont abandonné la corbeille depuis longtemps au profit d'ordinateurs et de double écran, pour ne pas dire plus. Mais en face de l'antique Bourse de Paris se situe l'une des institutions essentielles au bon fonctionnement des marchés financiers, j'ai nommé l'Autorité des marchés financiers. AMF, à ne pas confondre avec l'Association des maires de France. L'AMF n'est autre que le gendarme de la bourse, et alors que l'on attend d'un jour à l'autre la nomination d'un nouveau président, je me suis demandé à quoi servait vraiment l'AMF et pourquoi son patron n'allait pas manquer de travail dans les mois à venir. Je suis donc allé voir Laurence Boisseau au service marché des Échos. Bonjour Laurence.
Bonjour Pierrick.
D'abord, quand a été créée l'AMF ?
L'autorité des marchés financiers a presque 20 ans. Elle a été installée par Francis Maire en fin novembre 2003. Il était alors ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Et c'est une application de la loi de sécurité financière du 1er août 2003. Cette loi est importante parce qu'elle a simplifié et unifié l'architecture du dispositif français de régulation des marchés. Elle a rassemblé au sein de cette entité unique, donc l'AMF, les pouvoirs qui étaient exercés jusqu'alors par trois entités qui étaient le Conseil des marchés financiers, le CMF, la Commission des opérations de bourse, la COB, et le Conseil de discipline de la gestion financière, le CDGF. L'AMF, en fait, succède alors aux droits et aux obligations de ses prédécesseurs, c'est-à-dire qu'elle reprend les procédures de contrôle, d'enquête et de sanctions qui avaient été initiées par eux, et elle fait application des règlements de la COB et du règlement général du CMF.
Ouais, ça fait beaucoup d'acronymes. Hein. On va essayer de voir à quoi tout ça correspond. En fait, avec cette question, finalement, à quoi sert aujourd'hui l'autorité des marchés financiers ?
Alors, elle a quatre missions. Réguler, superviser, informer et protéger. Donc d'abord, elle veille au bon fonctionnement de la place financière de Paris, à la protection des épargnants qui investissent dans les instruments financiers, et elle veille aussi à la qualité de l'information qui est donnée aux agents économiques. Ensuite, elle joue un rôle dans les réglementations financières. Au niveau français, elle peut proposer des ajustements aux textes en vigueur ou bien être à l'origine de certaines lois. Et au niveau européen aussi, elle participe à l'élaboration et à l'harmonisation des règles financières. Elle agrée les sociétés de gestion d'actifs, les sociétés de gestion de portefeuille ou les OPCVM, et elle surveille tout ce qui se passe sur les marchés. Donc elle est là pour repérer toutes les pratiques ou comportements qui sont contraires à ces règlements ou qui constitueraient des infractions. Parmi ces infractions, par exemple, il y a la fausse information, la manipulation de cours ou le manquement ou le délit d'initié.
Avec une telle nouvelle, Blue Mineral devrait bondir de 25 à 30% dans la journée, ce qui devrait nous faire autour de 80 millions.
Je veux dire, mon fils d'en acheter, c'est l'aider à payer son divorce.
Alors mettez la moitié sur Lynch Capital, 4 000 sur Alcao. Ça va grimper très haut.
Trop fort, putain, trop fort.
Qu'est-ce qui se passe?
Je viens de rentrer un PEL pour un client.
Le délit d'initié, hein, qui est bien connu des amateurs hein, de polars financiers ou de films financiers. On voit effectivement qu'elle a un peu cette fonction de gendarme, mais comme tout gendarme, hein, il n'y a pas seulement l'idée d'une sanction ou d'une surveillance. Elle a aussi un rôle d'éducation et de prévention, notamment à destination des petits actionnaires, des actionnaires particuliers.
Oui, alors, une de ses missions, c'est d'informer et de protéger les épargnants. Dans ce cadre, elle a à la disposition différents outils qui permettent d'accompagner les investisseurs, enfin les épargnants, les particuliers, dans leur démarche d'investissement. Donc elle a par exemple, en cas de problème, un accueil téléphonique, AMF, épargne, info service. Elle a des guides pour guider les investisseurs et à comprendre les marchés. Et puis elle a aussi un service qui est très utile et qui est gratuit, le service de la médiation, qui consiste en fait à jouer l'intermédiaire entre la banque ou l'institution financière et l'épargnant pour tenter de régler à l'amiable des litiges financiers. Donc ça peut concerner par exemple des problématiques d'épargne salariale, des problématiques de PEA ou bien des problématiques d'exécution d'ordre de bourse. Et souvent, ce service arrive à obtenir des indemnisations qui permettent de réparer le préjudice subi par le particulier.
Oui, par exemple, un particulier qui estime qu'il a été mal conseillé par exemple par sa banque, il peut se tourner vers l'AMF là aussi pour obtenir une médiation?
Alors ça dépend en fait du produit proposé, si c'est un produit qui est dans le champ de compétence de l'AMF, le médiateur peut en effet essayer de régler à l'amiable ce litige. Alors ça ne veut pas dire qu'il va y arriver, mais il va tenter et parfois il y arrive bien, oui.
Alors quand on fait des bêtises, hein, y a la peur du gendarme, on sait que le gendarme justement de la bourse, il a aussi ce pouvoir de sanction avec des réunions que vous suivez régulièrement pour les Échos. Moi j'ai des souvenirs, Laurence, quand on travaillait dans le même service, le service marché, où que souvent vos vendredis matins étaient bien occupés par ces commissions de sanction. Comment ça se passe? C'est comme un tribunal?
Oui, à peu près. Alors juste, ce que je voudrais préciser, c'est que la commission des sanctions, donc elle peut sanctionner toute personne dont les pratiques sont contraires aux règles de marché. Elle intervient en fait en bout de chaîne, après une procédure assez longue. Il faut d'abord qu'il y ait une enquête ouverte par le secrétaire général de l'AMF. Il faut que cette enquête ait abouti, qu'il y ait eu des preuves qui aient été trouvées de la part des enquêteurs. Il faut que le collège ait décidé de poursuivre le mis en cause. C'est là que la commission des sanctions va intervenir. Alors en effet, c'est comme un tribunal. Elle comprend 12 membres. Certains sont des magistrats de la Cour de cassation ou du Conseil d'État. D'autres sont des profs de droit ou des spécialistes des marchés financiers. Et donc, elle va juger en première instance en émettant une décision. Cette décision, comme celle qui est émise par un tribunal, peut être contestée dans la Cour d'appel de Paris ou devant le Conseil d'État selon que la personne incriminée est ou non professionnelle des marchés. Donc, ces séances sont publiques. Elles ont lieu place de la Bourse dans les locaux de l'AMF et elles se tiennent de manière coutumière le vendredi. Donc, elles se déroulent toujours de la même manière. D'abord, il y a un des juges qui s'extrait de la commission des sanctions et qui ne participera pas à la décision du coup, qui expose le dossier. Lui, on l'appelle le rapporteur de la commission des sanctions. Ensuite, la parole est donnée à un représentant du collège de l'AMF qui donc poursuit et qui accuse le mis en cause et qui va expliquer ce qu'il lui reproche. Et enfin, on a l'avocat qui va plaider le dossier et le mis en cause qui peut s'exprimer à la fin. Et en général, la commission des sanctions, elle rend sa décision un mois plus tard, après cette audience.
Et vous parliez d'enquêteurs, c'est-à-dire qu'il y a des policiers, d'une certaine façon, des sortes de policiers qui travaillent pour l'AMF?
Oui, tout à fait. Donc, il y a un service des enquêtes avec des enquêteurs qui se font comme les policiers, mais qui n'ont pas tout à fait les mêmes pouvoirs, mais qui enquêtent en effet et qui tentent de chercher des preuves quand une enquête a été ouverte, oui.
L'AMF ne donne pas des amendes aussi salées que l'autorité de la concurrence qui chasse les cartels et les ententes sur les prix, mais est-ce qu'elle contribue quand même au budget de l'État?
Oui, alors à l'AMF, le plafond des sanctions, c'est 100 millions d'euros ou alors le décuple du montant de l'avantage retiré. À l'autorité de la concurrence, c'est bien plus élevé, hein, car le maximum, ça correspond à 10% du chiffre d'affaires mondial, donc ce qui peut être très très élevé. Malgré tout, sur 2021, la commission des sanctions a prononcé un montant de sanctions de 60 millions d'euros. C'était du jamais vu d'ailleurs. Par exemple, en août 2021, Amundi, la société de gestion du Crédit Agricole, a écopé de la plus grosse sanction jamais prononcée, à savoir 32 millions d'euros pour manipulation de cours sur le futur Euro Stock 50.
Ça, c'est un indice boursier, on va le préciser. Hein.
Oui. La même année, le groupe alimentaire marocain Diana Holding et sa patronne, qui s'appelle Rita Gzniber, ont été condamnés pour délit d'initié à payer 16 millions d'euros. Donc ça aussi, c'est une grosse amende.
Bon alors, regardez-vous ! Là ! Bon, j'espère, messieurs, que nous ferons du bon travail ensemble. Écoutez-moi bien. Vous savez que le gendarme est à la nation ce que le chien de berger est au troupeau. Il faut souvent aboyer, parfois mordre, mais toujours se faire craindre. Vous êtes les branches, je suis le tronc. Une seule chose compte, c'est que la récolte soit bonne et que les vaches soient bien gardées. Ce sera tout, messieurs.
Le gendarme de la bourse s'apprête à changer de chef de tronc, hein, pour reprendre l'expression de Funès qu'on vient d'entendre. Le recrutement a été lancé fin juillet. Où en est-on, Laurence ?
Alors oui, Robert Ophèle, président depuis 2017, a quitté ses fonctions le 31 juillet. Bon, alors pourquoi ? Parce qu'il a un mandat de 5 ans et qu'il arrivait à terme et ce mandat n'est pas renouvelable. Alors, le départ de Robert Ophèle était prévisible puisque ce mandat a une fin. Mais la rumeur dit qu'en fait, le gouvernement et le président lui ont cherché un successeur et qu'ils ne l'ont pas trouvé. Du coup, Bercy a lancé un recrutement ouvert avec un appel de candidature. Alors, il l'avait déjà fait en 2017, mais il espérait ne pas le refaire dans ce cas-là. Mais bon. Et dans son appel à candidature, Bercy a demandé à un candidat avec une expertise en matière financière, évidemment, une expérience dans la sphère publique, ainsi qu'européenne et internationale. Ce recrutement, il est fait de la manière suivante. Il y a 3 personnalités qualifiées qui ont été désignées pour aider le ministre de l'économie à faire un choix. Ces 3 personnalités sont Christian Noyer, c'est un ancien gouverneur de la Banque de France, France Drumont, elle est professeure de droit, et Carmine Dinoia, c'est un ancien président de la CONSOB, le gendarme boursier italien. Ces 3 personnes sont là pour faire une sélection parmi les candidats. La phase d'entretien, elle a eu lieu la première semaine de septembre. Et selon les rumeurs, le panel aurait déjà fait des recommandations. Et en fait, c'est Emmanuel Macron qui doit décider. À l'heure actuelle, on ne sait pas combien il y a de candidats. Le secret est hyper bien gardé. La dernière fois, il y a 5 ans, il y a eu plus de 40 candidats. Cette fois-ci, il semble qu'ils soient beaucoup moins nombreux. Alors pourquoi ? Parce que le poste est prestigieux, certes, mais le salaire est pas très élevé. Enfin, il est moins élevé que dans le privé, pardon. Un président de l'AMF, il gagne 230 000 euros par an et il n'a pas de rémunération variable. En plus, l'inconvénient, c'est que son mandat ne peut pas dépasser 5 ans. Et après, trouver un emploi dans la finance, c'est assez compliqué parce qu'en fait, il se retrouve très souvent face à des situations où il risque d'être en conflit d'intérêts. Donc, il ne peut pas y aller. Ce qui expliquerait pourquoi il y aurait eu peu de candidats cette fois-ci.
Le Code monétaire et financier dispose que le président de la République nomme le président de l'AMF pour une durée de 5 ans, non renouvelable. C'est ce qu'on peut lire dans l'appel à candidature publié sur le site de Bercy. La présidence de l'autorité des marchés financiers ne peut pas rester vacante. Il y a donc pour l'instant un président intérimaire qui occupe le poste en attendant l'arrivée du nouveau patron. Robert Ophèle a lui quitté son poste fin juillet. Laurence, quel est son bilan ?
Il a eu quand même un événement assez particulier. Il a eu à gérer la pandémie, une période compliquée qui s'est traduite par des marchés en net repli. Et pendant 2 mois, il a interdit la vente à découvert sur l'ensemble des titres. Ensuite, indépendamment de la crise financière, l'AMF s'était fixé 3 axes stratégiques pendant son mandat. Faciliter l'intégration européenne des marchés financiers, favoriser l'essor de la finance durable et accompagner la finance digitale dans ses premiers pas. Ce qu'elle a fait. Sur les crypto-actifs ou les actifs numériques, l'AMF a été particulièrement proactif. Elle a contribué à la rédaction du cadre réglementaire dans la loi Pacte pour les levées de fonds par émission de jetons et pour les prestataires de services numériques, c'est-à-dire les plateformes d'échange de crypto-actifs. Et cette loi est importante parce qu'elle a inspiré le règlement MiCA au niveau européen, qui a été arrêté lors de la présidence française de l'Union européenne.
Précision, MiCA, avec un C, c'est pas le chanteur bien sûr, mais c'est un règlement qui couvre le commerce de crypto-monnaies et qui ambitionne aussi d'aider au développement du secteur et des entreprises dans les actifs numériques. Il y a d'ailleurs de l'ambiance, place de la Bourse, la nomination d'un nouveau président pour l'AMF, un poste important pour la surveillance des marchés financiers et qui intervient alors qu'il y a de nombreux départs ces derniers mois à des postes clés, dont la directrice des affaires juridiques. Que se passe-t-il à l'AMF, Laurence ?
Oui, alors c'est vrai. Depuis janvier, il y a eu plusieurs experts reconnus dans leur secteur qui ont quitté l'AMF. Alors, des femmes, surtout. Parmi elles, donc, Anne Maréchal, la directrice des affaires juridiques. Elle avait pris ses fonctions il y a 9 ans chez le régulateur. et elle s'occupait des contentieux, elle travaillait sur les travaux de place. Elle avait eu notamment à gérer le dossier Veolia-Suez quand l'AMF avait dû arbitrer entre les deux sociétés. Elle est partie dans un cabinet d'avocats qui s'appelle De Gaulle-Florence. Avant elle, son adjointe avait quitté le régulateur pour rejoindre Binance. À la même époque, il y a une chargée de la finance durable à l'AMF, Julie Ancidei, qui est partie rejoindre BlackRock. Enfin, il y a eu un certain nombre de départs, en effet. Pourquoi ? Il n'y a pas de raison particulière, si ce n'est que les salaires sont pas très élevés par rapport au privé, les augmentations sont pas conséquentes, et puis le marché est extrêmement porteur en ce moment, et pas seulement dans les crypto-actifs. Hein. Les opérations de rapprochement sont importantes et les cabinets d'avocats recrutent, donc c'est le moment d'aller voir ailleurs.
En 2021, près de 10% des effectifs ont quitté le navire, selon le rapport annuel de l'AMF, publié il y a peu, contre un peu moins de 8% l'année précédente. Mais ça participe globalement aux nombreux mouvements sur le marché du travail dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Il va y avoir donc un autre mouvement important avec un nouveau président de l'AMF. Il y a un favori, Laurence, on a une idée de qui remplacera Robert Ophel ?
Eh bien non. C'est un secret qui est très très bien gardé.
Faut que je te dise un truc, ah ouais, c'est un secret. Personne doit savoir pourquoi. Parce que...
Bon, j'ai bien compris, hein, le nom est aussi bien gardé que la recette du Coca-Cola. J'ai compris qu'il fallait être un petit peu patient, mais je voudrais quand même qu'on s'arrête sur un candidat officiel qui a été récemment auditionné. Il s'appelle Guillaume Prache et il est délégué général de Better Finance. Qui est-il et pourquoi candidate-t-il ?
Alors oui, Guillaume Prache, il est délégué général de Better Finance. C'est une organisation européenne non gouvernementale qui vise à défendre les intérêts des épargnants. Et il est membre de la commission consultative des épargnants à l'AMF. Il a été directeur financier de Rhône-Poulenc-Rohrer de 97 à 2000 et il est considéré comme un défenseur des épargnants. Alors, sa candidature a fait beaucoup parler parce que d'abord, elle est publique. Aucune autre candidature ne l'est. Et surtout, elle est soutenue par une vingtaine de représentants des épargnants connus sur la place de Paris. Des gens comme Colette Neuville, qui est présidente de l'ADAN, Hervé Chef-de-Ville, président de l'Association pour le patrimoine et l'actionnariat individuel, ou encore Charles-Henri Dovini, président de l'AF2I.
Alors Emmanuel Macron se laissera-t-il convaincre par ce profil un peu atypique ? On le saura bientôt, mais on sait déjà que le successeur de Robert Ophel aura du pain sur la planche, surtout dans un contexte de marché financier chahuté. Et alors Laurence, que les arnaques se multiplient ces dernières années ?
Oui, il aura du pain sur la planche parce que, avec la guerre en Ukraine, on a découvert un certain nombre de choses, notamment que les marchés des matières premières étaient de première importance et qu'on avait sous-estimé les besoins de liquidités sur ces marchés. Sur la finance durable aussi, il y a beaucoup de travail, notamment l'efficacité de la finance durable a besoin d'être démontrée. Et c'est vrai aussi que les arnaques se multiplient. Depuis la crise du Covid, elles ont explosé sur Internet. Il y a des slogans alléchants, hein, on en voit tous les jours, devenir riche en travaillant de chez soi, mettre sa daronne à l'abri, devenir millionnaire avant 30 ans. En 2021, les arnaques financières ont fait perdre 500 millions d'euros aux Français. 1% de la population française aurait été victime d'une escroquerie au cours de ces dernières années. Fait nouveau, les escrocs ciblent désormais les jeunes et les CSP, là, les catégories socio-professionnelles, moins. Les personnes qui sont plus fragiles et plus faciles à convaincre, car elles ont moins d'expérience de la gestion de leur épargne.
Et parmi les arnaques marquantes de ces derniers mois, il y en a une qui porte même sur l'investissement dans les vaches. Ouais, certains font miroiter des rendements garantis entre 6 et 12% selon les races. Je vous conseille d'ailleurs la lecture d'une enquête de Pierre Demoux sur le sujet, un article de mai 2020. Les escrocs ne manquent pas d'imagination et l'AMF elle-même est parfois victime d'usurpation d'identité.
Ah oui, début septembre, le comble. L'AMF a alerté sur la multiplication de sites frauduleux qui utilisaient son nom. Le risque, c'est que ces sites qui ont un nom de domaine qui comprend l'acronyme AMF harponnent des individus et leur demandent des données confidentielles, comme les coordonnées bancaires. Alors évidemment, avec le mot AMF, on a tendance à pas se méfier. Mais oui, c'est assez dingue en fait.
Et l'AMF n'est pas la seule victime. J'ai reçu vendredi une alerte au public de la Banque de France concernant l'utilisation frauduleuse de son nom, mais aussi de son numéro de téléphone utilisé par des arnaqueurs dans le cadre de fraudes dites aux faux courtiers. La Banque de France appelle les consommateurs à la plus grande vigilance et rappelle qu'elle n'intervient jamais dans la souscription de crédit bancaire.
Bonjour ! Avez-vous déjà rêvé de gagner des sommes colossales grâce au trading alors que vous n'y connaissez rien ? Eh bien, votre vœu vient d'être exaucé. Je m'appelle Thomas et je suis analyste programmeur. J'ai travaillé avec les plus grands, comme Bill Gates, Mark Zuckerberg. J'ai également collaboré avec les nazis. Mais ça, il faut pas le dire.
Comment gagner 1000 euros par seconde? Le sketch moqueur de Superflamme, c'est une épidémie sur YouTube, TikTok et les réseaux sociaux. Les influenceurs de la bourse, on en avait parlé il y a quelques mois dans la story avec Nessima Haït Kassimi. Laurence, l'AMF a aussi ses influenceurs à l'œil dans un contexte de frénésie, notamment sur les cryptoactifs.
Oui, parce qu'il se trouve que les réseaux sociaux et les influenceurs sont les nouveaux points d'entrée apparus ces dernières années. Alors, on a un mode opératoire que l'AMF a bien repéré. Par exemple, sur Instagram, TikTok ou Snapchat, les influenceurs partagent de faux bons plans pour inciter les jeunes à se former au trading ou bien à acheter des cryptoactifs. En 2021, l'influenceuse Nabila, elle s'est fait taper sur les doigts. Elle a eu une amende de 20 000 euros. Alors, c'est pas beaucoup, mais bon, c'est déjà le commencement pour pratiques commerciales trompeuses. Elle avait fait en 2018 la promotion de services boursiers sur Snapchat et elle n'avait pas mentionné qu'elle était rémunérée pour cela. Dernièrement, il y a une autre grosse arnaque qui a fait beaucoup parler d'elle. C'est celle du youtubeur CryptoGouv. Il aurait volé entre 3 et 4 millions d'euros à ses abonnés à qui il donnait des conseils. Les moyens de l'AMF sont assez limités en fait. Elle tente de prévenir, elle lance des campagnes auprès des jeunes en les informant du danger des publicités sur le trading. Mais le rapport de force est inégal en fait. Sur Instagram, l'AMF est suivie par 12 000 personnes. C'est rien par rapport aux millions d'abonnés de certains influenceurs. Alors, face à la multiplication des profils d'influenceurs sur les réseaux sociaux, elle a indiqué vouloir créer un statut d'influenceur responsable. Alors, l'idée, c'est de former les stars des réseaux sociaux à mieux maîtriser le cadre légal et éthique. Les stars passeraient un test, et si elles le réussissent, elles auraient un certificat d'influenceur durable. Pour les épargnants, ce serait une garantie que certaines règles sont respectées. Bon, à voir, hein.
Pas la garantie de gagner de l'argent, bien sûr.
Non. Absolument pas.
Merci Laurence Boisseau, journaliste au service marché des Échos, pour cet aperçu du rôle de l'AMF. En attendant de connaître le successeur de Robert Ophèle, qui, je trouve, a un faux air de Scott Bakula. Un petit clin d'œil pour mes collègues du service marché. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
Hey marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with Host Red sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book Host Red sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.